20. Ils découvrirent d'abord un fauteuil vide, une vieille bergère devant un mur sur lequel était accrochée une reproduction d'un grand voilier Curry and Ives. Puis un visage de femme apparut dans le cadre, face à l'objectif. « C'est elle, » dit Luc. « C'est Maureen, la dame qui m'a aidé à m'enfuir. »« Ça marche ?» demanda Maureen. « La petite lumière est allumée, alors je suppose que oui. J'espère en tout cas, parce que je ne pense pas avoir la force de recommencer. » Son visage quitta l'écran de l'ordinateur portable devant lequel ils étaient tous rassemblés, au grand soulagement de Tim. Ce très gros plan lui donnait l'impression de regarder une femme enfermée dans un bocal à poisson rouge. Sa voix faiblit légèrement. « Mais s'il le faut, je le ferai. » Elle s'assit dans le fauteuil et tira sur l'ourlet de sa jupe à fleurs. En haut, elle portait un chemisier rouge. Luc, qui ne l'avait jamais vu autrement qu'en uniforme, trouvait que ça formait un bel ensemble, même si les couleurs vives ne parvenaient pas à masquer la maigreur du visage, ni son expression hantée. « Montez le sang !» dit Frank Potter. « Elle aurait dû mettre un micro-cravate !» Maureen continuait à parler pendant ce temps. Tag revint en arrière, monta le volume et relança l'enregistrement. Maureen regagna le fauteuil et tira de nouveau sur l'ourlet de sa jupe. Elle regardait fixement la caméra. « Luc ?» Celui-ci fut tellement surpris d'entendre son nom qu'il faillit répondre, mais elle continua avant qu'il ouvre la bouche. Et ce qu'elle dit ensuite lui enfonça un poignard de glace dans le cœur. Même s'il le savait déjà, non? De même qu'il n'avait pas eu besoin que le Star Tribune lui apprenne la mort de ses parents. « Si tu regardes ces images, c'est que tu es libre et que je suis morte. » L'adjoint nommé Potter dit quelque chose à son collègue, nommé Faraday, mais Luc n'y prêta pas garde. Toute son attention était concentrée sur la seule personne adulte qui avait été son amie à l'Institut. « Je ne vais pas te raconter l'histoire de ma vie, » poursuivit la morte assise dans la bergère. « Je n'ai pas le temps, et c'est tant mieux, car j'ai honte de beaucoup de choses. Mais pas de mon garçon. Je suis fier de ce qu'il est devenu. Il ira à l'université. Il ne saura jamais que l'argent vient de moi, mais ce n'est pas grave. Au contraire, c'est mieux comme ça, parce que je l'ai abandonné. Et sans toi, Luc, j'aurais perdu cet argent. » Et la possibilité de me racheter auprès de lui. J'espère seulement que je me suis aussi racheté auprès de toi. » Elle s'interrompit, semblant se ressaisir. « Je te raconterai seulement un épisode de ma vie, car c'est important. Je suis allé en Irak durant la Seconde Guerre du Golfe et en Afghanistan. J'ai participé à ce qu'on appelait des interrogatoires poussés. » Pour Luc, cette élocution posée et fluide, sans « eux », tu vois, je veux dire, constituait une révélation, et une gêne autant qu'un soulagement. Elle semblait tellement plus intelligente que lors de leur conversation à voix basse près du distributeur de glaçons. Parce qu'elle jouait les idiotes. Peut-être. Mais peut-être aussi, probablement, parce qu'il voyait en elle une femme de ménage et en déduisait qu'elle n'avait rien dans le cerveau. Contrairement à moi, autrement dit. Et il s'aperçut que le mot « gêne » ne décrivait pas ce qu'il ressentait. Le bon mot était « honte ». J'ai assisté à des tortures dans la baignoire. J'ai vu des hommes, des femmes aussi, un couple, debout dans des bassines d'eau avec des électrodes au bout des doigts et dans le rectum. J'ai vu des ongles de pied arrachés avec des tenailles. J'ai vu un homme recevoir une balle dans la rotule parce qu'il avait craché au visage de celui qui l'interrogeait. Au début, j'étais choqué, mais au bout d'un moment, je me suis habitué. Parfois, quand c'était des hommes qui avaient fait sauter nos gars ou envoyé des kamikazes sur des marchés, je me réjouissais. Et dans l'ensemble, j'étais... Ah, je connais ce mot. « Insensibilisé, » dit Tim. « Insensibilisé, » dit Maureen. « La vache, on croirait qu'elle t'a entendu, » commenta l'adjoint Burkett. « Chut !» souffla Wendy. Et quelque chose dans ce mot fit frissonner Luc. C'était comme si quelqu'un d'autre l'avait prononcé peu de temps avant elle. Il reporta son attention sur la vidéo. Plus jamais participer après les deux ou trois premières fois, parce qu'ils m'ont confié une autre tâche. Quand ils refusaient de parler, j'étais la gentille non-combattante qui venait leur donner à boire ou qui leur filait un truc à grignoter en douce, une quest bar ou des Oreos. Je leur expliquais que les interrogateurs faisaient une pause, qu'ils étaient partis manger et que les micros étaient éteints. Je leur disais que j'avais de la peine pour eux et que je voulais les aider. Je leur disais que s'ils ne parlaient pas, ils seraient tués, même si c'était contraire au règlement. Je ne disais jamais « contraire à la Convention de Genève », car la plupart ne savaient pas de quoi il s'agissait. Je leur disais que s'ils ne parlaient pas, leur famille serait tuée, et que je ne voulais surtout pas ça. Généralement, ça ne marchait pas, ils se méfiaient, mais parfois, quand les soldats revenaient pour les interroger, les prisonniers leur racontaient ce qu'ils voulaient savoir, parce qu'ils me croyaient ou avaient envie de me croire. Parfois, ils me racontaient des choses parce qu'ils étaient désorientés, perdus, et parce que je les avais manipulés. Que Dieu me garde, j'avais un visage qui inspirait confiance. Je sais pourquoi ils me racontent ça, pensa Luc. Comment je me suis retrouvé à l'Institut? C'est une trop longue histoire pour une femme fatiguée et malade. Disons que quelqu'un est venu me trouver, et restons-en là. Ce n'était pas Madame Sixby, Luc, ni Monsieur Stackhouse, ni un fonctionnaire du gouvernement. C'était un homme âgé, qui se présentait comme un recruteur. Il m'a demandé si je voulais trouver un travail à mon retour au pays. Un boulot facile, disait-il, mais réservé à une personne qui savait la boucler. J'avais envisagé de rempiler, mais ce boulot semblait plus intéressant. L'homme affirmait que je servirais mon pays bien plus que dans le désert. Alors j'ai accepté. Quand ils m'ont mise à l'entretien, ça m'allait. Je savais bien ce qu'ils faisaient, mais au début ça m'allait aussi, parce que je savais pourquoi. Et heureusement pour moi, car l'Institut, c'est comme ce qu'on dit de la mafia. Une fois qu'on y est entré, impossible d'en sortir. Quand je n'ai plus eu les moyens de payer les factures de mon mari, quand j'ai commencé à avoir peur que les vautours me prennent l'argent que j'avais mis de côté pour mon garçon, j'ai réclamé le poste que j'avais déjà occupé. Madame Sixby et Monsieur Stackhouse m'ont laissé essayer. Mouchardé, murmura Luc. C'était facile. J'avais l'impression d'enfiler une vieille paire de chaussures. J'ai travaillé là-bas 12 ans, mais je n'ai mouchardé que durant les 16 derniers mois. Et à la fin, je ne supportais plus ce que je faisais. Je ne parle pas seulement du mouchardage. J'avais été désensibilisé dans ce qu'on appelait les maisons noires, et je le suis resté à l'Institut. Mais au bout d'un moment, ça s'est atténué, comme la carrosserie d'une voiture se ternit si on ne la lustre pas régulièrement. Ce ne sont que des enfants. Et les enfants ont besoin de faire confiance à un adulte gentil et compréhensif. Eux n'avaient fait sauter personne. Au contraire, c'était eux qu'on détruisait, et leur famille. Malgré tout, peut-être que j'aurais continué. Si je veux être honnête, et il est trop tard pour mentir, je serais certainement resté. Mais je suis tombé malade. Et je t'ai rencontré, Luc. Tu m'as aidé, et ce n'est pas pour ça que je t'ai aidé en retour. Ce n'est pas la seule raison, en tout cas, ni la principale. J'ai vu combien tu étais intelligent, beaucoup plus que les autres enfants, beaucoup plus que les gens qui t'avaient enlevé. Et je savais qu'ils se fichaient pas mal de ta finesse d'esprit, de ton sens de l'humour, du fait que tu sois disposé à secourir une vieille femme malade comme moi malgré les risques. Pour eux, tu n'étais qu'un rouage de la machine qu'on utilise jusqu'à ce qu'il se brise. Tu aurais fini comme tous les autres, les centaines d'autres, des milliers peut-être, depuis le tout début. « Elle est cinglée ?» demanda George Burkett. « La ferme !» donna Ashworth. Penché en avant sur son ventre, il ne quittait pas l'écran des yeux. Maureen s'était interrompue pour boire une gorgée d'eau et se frotter les yeux, enfoncés dans leurs orbites creuses. Des yeux malades, tristes, agonisants. Des yeux qui regardaient l'éternité en face, pensa Luc. Néanmoins, c'était une décision difficile à prendre, et pas uniquement à cause de ce qu'il pouvait te faire, Luc. C'était difficile car si tu réussissais à t'échapper, s'il ne te rattrapait pas dans les bois ou à Denison Riverbend, et si tu trouvais quelqu'un prêt à te croire, si tu surmontais tous ces « si », tu pouvais peut-être faire éclater au grand jour ce qui se passe ici, depuis 50 ou 60 ans, et tout faire s'écrouler sur leur tête. Comme Samson dans le temple, pensa Luc. Maureen se pencha vers l'objectif, pour le regarder, lui. Et ça pourrait entraîner la fin du monde.